Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
On retrouve Bruno Dussaussois et son invité Emmanuel Leroy-Ladurie de l'Académie des sciences morales et politiques dans une série de 6 émissions consacrées à l'histoire du climat.
Bonjour, cette semaine, le thème de notre série sur l'histoire du climat va nous mener dans la France septentrionale et centrale. Grâce aux dates des vendanges et aux séries thermométriques repérées par Daniel Rousseau de Météo France, on peut suivre les fluctuations du climat depuis le début du XVIIe siècle dans cette zone géographique qui inclut aussi le Benelux, le sud de l'Angleterre, l'Allemagne occidentale. Et c'est à cet exercice que vous avez accepté de vous prêter ici, Emmanuel Leroy-Ladurie. Si vous voulez bien, commençons par décrire d'abord le mécanisme de ces fluctuations.
Alors, il y a les fluctuations majeures avec ces appareils très très sensibles que sont les glaciers alpins. Il suffit de fluctuations de quelques dixièmes de degré pour que le glacier, au terme d'un siècle, recule d'un kilomètre. Donc ça, ce sont des appareils sensibles. Mais à partir de 1600, peut-être qu'on arrivera à remonter plus haut, on a ce qui est peut-être... Et Atlantique multidécadale oscillation, je parle bon c'est la française, Atlantique multidécennale oscillation, on a peut-être un régime de fluctuation d'une, bon, ça peut être une vingtaine d'années, une trentaine d'années, un peu plus, un peu moins, une période d'années en moyenne plutôt tiède, suivie d'une période d'années en moyenne plutôt fraîche. Alors, les choses deviennent très précises, surtout après 1850, quand on a les températures de l'océan, parce qu'avant, on ne les a pas. Donc là, on aperçoit en effet les fluctuations du XXe siècle. Je prendrai l'exemple d'un premier réchauffement du XXe siècle qui est assez net au point de vue des étés entre 1930 et 1950, donc les séries d'années tièdes, suivies d'une série d'années un peu rafraîchies, mais le réchauffement de fond continue quand même, entre 1950 et 1980. Et puis depuis 1988, les choses sont reparties vers la chaleur, bien que effectivement, de 2000 à 2010, la décennie... on disait la France est à 13 degrés de moyenne. Non, elle est à 12,9. Donc, il y a un petit chouïa de rafraîchissement. Enfin, trop fort.
En somme, depuis l'orée du XXe siècle, cette alternance régulière de phases tièdes-fraîches s'est progressivement détraquée. En raison, je vous cite, d'un phénomène indépendant et tout à fait nouveau, le début du réchauffement global. Alors, pour la dernière fluctuation, la fluctuation dite Prométhée, qui s'étend de 1987 à 2010, c'est une phase de réchauffement très marquée. Il n'y a pas de séquence fraîche
pour le moment.
Oui. Et une fluctuation qui correspond précisément aux années d'accentuation du réchauffement global en France à partir de 1988.
Alors actuellement, on peut dire que le réchauffement commence depuis 1910 à peu près. Et on a eu des très belles années, malheureusement mal situées, de la Deuxième Guerre mondiale et puis l'après-guerre qui était un peu plus agréable. Mais il est vrai que cette fluctuation liée en partie à un phénomène naturel, en partie à un réchauffement d'origine industrielle du CO2, a fait place ensuite, a continué, mais avec un certain rafraîchissement entre 1950 et, disons, les années 1980. Donc là, on a une fluctuation bien caractérisée, mais sur un fond de réchauffement. Et alors, depuis 1988 jusqu'à nos jours, c'est une grande vague de réchauffement. On ne peut quand même pas exclure que même si le réchauffement devrait rester, enfin moi je suis pas physicien, devrait rester le phénomène dominant et dangereux du XXIe siècle, on ne peut pas exclure qu'effectivement il y ait une légère fluctuation négative. Mais là, on pédale dans la choucroute. Hein.
Et parlons un instant de votre nouveau livre sur les fluctuations du climat depuis l'an 1000. Parce que nous venons de parler de ces fluctuations depuis le XVIIe siècle, mais comme l'indique le titre de votre livre, vous remontez jusqu'à l'an 1000. Alors comment avez-vous procédé ?
Alors, je crois qu'il y a deux périodes, au fond. Il y a la période où on ne peut guère connaître, on peut connaître surtout par les glaciers alpins. Et là, ce sont plutôt de grandes vagues séculaires avec l'optimum climatique du 10e au 13e siècle, le rafraîchissement du 14e, l'adoucissement du 15e et le redémarrage du petit âge glaciaire à partir de 1560 jusqu'à 1855. Mais enfin, ce sont des choses assez minces. C'est une affaire de quelques dixièmes de degrés. Donc, en réalité, les événements forts, les événements puissants, sont les années très dures, dans un sens ou dans un autre, de grandes canicules et surtout de rafraîchissement, de refroidissement, qui correspondent souvent à des années de famine. À partir de 1600, mais peut-être qu'on pourra remonter plus haut. On connaît mieux la périodisation. Et le hasard veut que ce soit à peu près 4 fluctuations au XVIIe siècle. Une, disons, qu'on pourrait appeler Galilée, si vous voulez, une Mazarin, une Colbert et une Vauban. Et le hasard veut qu'aussi 4 au XVIIIe, qu'on pourrait appeler Saint-Simon, première décennie. Montesquieu, qui est le grand théoricien du climat, peut-être Choiseul, et enfin Lavoisier, disons, à la fin de la Révolution. Et au XIXe siècle, nous avons trouvé une fluctuation que nous avons appelée Goethe, et ainsi de suite, et nous arrivons avec Victoria, cette fois-ci, à ce qui va être le début du réchauffement, le premier réchauffement qui attaque durement les glaciers alpins entre 1855 et 1880, et puis notre réchauffement depuis, disons, 1910, parfois même un peu auparavant.
Et puis nous arrivons évidemment jusqu'à la fin du XXe siècle et au début du XXIe. Je voudrais terminer cette émission en lisant un court extrait de votre livre « Le réchauffement de 1860 à nos jours », troisième volume de votre histoire humaine et comparée du climat. Alors, c'est à propos de la décennie 1988-2000 et vous parlez à ce propos de douceur de vivre. Alors, je vous lis. Le pire n'est pas toujours sûr et mieux vaut peut-être jeter sur le passé tout récent, je veux dire sur les années 1988-2000, un regard inévitablement nostalgique. Dira-t-on que jamais l'Europe n'a été aussi heureuse que lors de cette grosse douzaine de millésimes, Balkans exceptés ? Mettons à part en effet les guerres fratricides qui se sont déroulées dans l'ex-Yougoslavie, mais le reste, l'effondrement du système de l'Est, exorciser les craintes, parfois grandes peurs nées du danger de guerre mondiale, elles avaient longtemps pesé comme une sombre nuée sur nos pays, du fait de la division Est-Ouest, désormais caduque. Quant aux températures, qui sont davantage notre sujet, elles étaient tièdes sans être brûlantes lors de cette ultime décennie du XXe siècle. C'était l'optimum, certes momentané. Les vins étaient excellents, surtout à partir de 1995. Les printemps et les étés, les automnes aussi, étaient de type toscan, alcyonien. Les hivers s'avéraient plus doux que jamais, sauf en 91 et 92, par rapport aux 9 décennies antérieures de ce qui, pour nous dorénavant, s'appelle le siècle précédent. La bourse allait grand train, au bénéfice, à tout le moins, de ceux qui pouvaient jouir de ses bienfaits. La Russie paraissait, à tort peut-être, être définitivement convertie à une politique libérale. Il faudra, dans des ordres d'idées très différents, le coup de gong sanglant du 11 septembre 2001 et, quant à notre thème d'étude, la canicule tueuse de 2003, pour que nos concitoyens d'Europe sortent enfin de cette délicieuse torpeur fin de siècle. Elle devait être quelque peu démentie à bref délai dès 2001-2003, terrorisme et canicule, lors des commencements du nouveau millénaire. Dirons-nous, paraphrase de Talleyrand, que ceux qui n'ont pas vécu la belle hyper-décennie des années 1990 n'ont pas vraiment connu la douceur de vivre ?
Oui, alors évidemment, là, il m'a paru amusant, intéressant de faire une période fin de siècle, mais actuellement, nous vivons probablement un réchauffement très lent, très progressif, peut-être très sournois, qui n'empêche pas une extraordinaire variabilité des hivers froids, etc. Le problème, c'est la prospective. Alors, on sent que maintenant, les gens du GIEC, même un homme éminent comme Jean Jouzel, ont mis un tout petit peu d'eau dans leur vin, c'est-à-dire que ils se rendent compte que des prédictions catastrophiques ne peuvent que démoraliser les gens ou que se heurter au scepticisme. Je suis frappé, par exemple, que Jean Jouzel, qui, il y a quelques années, avec raison, disait « nous avons quelques années précisément pour diviser par deux la production de CO2 », bien maintenant, il prend les choses avec peut-être, je le comprends très bien, avec un peu plus de douceur. Il fait remarquer quand même que l'élévation du niveau de la mer à New York ou à Londres, c'est tout de même quelque chose d'embêtant. Il essaie d'aider les gens à toucher du doigt des phénomènes plus proches, plutôt que de travailler sur les 50 ou 100 ans qui viennent, parce que la démocratie n'est pas armée. La démocratie, elle est armée pour, armée, enfin plus ou moins, pour 5 ans ou pour 10 ans, guère plus. Si bien que, malgré tout, j'ai été frappé par le fait que Mme Kosciusko-Morizet, avec un certain courage, est allée dans la perspective d'un réchauffement dangereux et veut prendre des mesures. On l'a vu ça, du reste, au moment de l'affaire de Copenhague, où d'un côté, le monde entier, tous les États du monde se sont mobilisés autour de la question du réchauffement. Et puis, en fait, le soufflet est retombé, quand même. Alors, je suis très étonné de voir que, pour ce qui se passe en Somalie, je suis incapable de dire, du reste, si la sécheresse est caniculaire, me semble-t-il, de la Somalie actuelle est liée au réchauffement ou si c'est simplement un accident de variabilité. Mais dans un seul cas, qui donc ne prouve absolument rien, c'est une source africaine, donc il ne faut pas dire que c'est tout à fait l'avant-garde absolument de la science, et on a évoqué le mot réchauffement climatique. Mais en général, cet épisode, qui est grave évidemment, est traité comme un accident de variabilité, certes épouvantable. Je n'ai pas de réponse très précise à donner, puisqu'encore une fois, je m'abstiens de jouer les prophètes pour un historien.
Vous êtes historien, vous n'êtes pas prophète.
Oui, c'est ridicule, bien sûr. Mais en revanche, je ne vois pas pourquoi les scientifiques ne pourraient pas être un peu prophètes, quitte à se tromper. Hein.
Merci beaucoup, Emmanuel Leroy-Ladurie. Chers auditeurs, si vous voulez en savoir plus sur ce vaste sujet, vous pouvez lire la retranscription de la communication qu'a donnée Emmanuel Leroy-Ladurie le 20 juin dernier à l'Académie des sciences morales et politiques, dont il est membre depuis 1993. Le lien se trouve sur la page de notre émission. Et puis je renvoie également à son dernier livre sur les fluctuations du climat depuis l'an 1000. La prochaine fois, nous conclurons cette série sur l'histoire du climat en évoquant l'avenir de la discipline en France entre inquiétude et espoir. À bientôt.